Nous sommes le vendredi 3 avril. Jérôme Cadet, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le bac 2020 sera inédit. Pas ou peu d'épreuves écrites. Priorité au contrôle continu. Le ministre de l'Éducation nationale fera des annonces ce matin. On y revient dès le début du journal. Après les autres titres, Jérôme.
Ils accompagnent les personnes âgées jusqu'au bout. Les médecins gériatres vivent la crise dans leur chair. Nous serons avec eux dans le Grand Est. La chasse aux masques en Chine. Pourtant, la France en produisait plusieurs millions par an en Bretagne, mais l'État s'est désengagé et l'usine a fermé. Explication à suivre. Le monde face au virus, quand le confinement tourne à la répression, aux Philippines ou au Kenya. Et puis la lecture, pour passer le temps ou donner du sens à ce qui nous arrive. Le festival Quai du Polar à Lyon se tient ce week-end en mode virtuel.
Les invités de France Inter aujourd'hui à 7h50, c'est le président de la Fédération Hospitalière de France, Frédéric Valdoux, qui sera à notre micro. Et puis à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le sociologue et philosophe des sciences Bruno Latour. Le standard est ouvert. Appelez-nous 01 45 24 7000.
France Inter.
Les 750 000 lycéens de terminale seront fixés. En fin de matinée, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, expliquera lors d'une conférence de presse comment sera attribué le bac 2020. Une chose est sûre, ce bac ne se déroulera pas dans des conditions normales. Le Premier ministre a d'ailleurs une préférence pour le contrôle continu complet. Édouard Philippe l'a expliqué hier soir.
Il est donc acquis définitivement que les épreuves du baccalauréat ne pourront pas se dérouler au mois de juin comme elles se déroulent chaque année et qu'elles ne pourront pas non plus se dérouler au mois de juillet, ce qui évidemment était une hypothèse, parce que ça poserait d'autres problèmes de compatibilité avec des concours. Ça veut dire que très probablement, il va falloir organiser les épreuves du bac 2020 d'une façon totalement neuve et totalement originale. C'est ce que j'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale d'instruire. Il aura l'occasion de préciser très prochainement les conditions dans lesquelles le bac 2020 interviendront. Je crois, pour ma part, que c'est sur la piste du contrôle continu le plus complet qu'il va falloir se reposer. C'est une question sensible, mais il faut avoir conscience que le bac 2020 ne se déroulera pas dans les conditions normales.
Édouard Philippe sur TF1 qui confirme par ailleurs les risques de pénurie pour certains médicaments. C'est notre priorité numéro un, dit le Premier ministre. Quant au confinement, il sera probablement prolongé au-delà du 15 avril. Dans ces conditions, pas question, redit Édouard Philippe, de partir en vacances. Celle de Pâques débute ce soir. Pour la zone C, les académies d'Île-de-France, de Toulouse et de Montpellier, les contrôles routiers sont renforcés au départ des grandes villes. Les préfets ont pour consigne de vérifier le niveau des locations dans les départements touristiques. Alors à quoi va ressembler cette pause pour des élèves confinés? Sonia Princé leur a posé la question.
Ils ne sont pas vraiment impatients d'être en vacances. Les élèves savent qu'ils ne pourront pas en profiter. Honorine, par exemple, une lycéenne de seconde, a du mal à se réjouir.
Ça va faire du bien quand même. Mais bon, après, faut voir, parce que nous, ça va, on a un jardin. Mais les gens qui sont en appart, des fois je me dis, à part travailler, on va pas passer toute la journée devant les écrans ou à faire des jeux. Ou... Donc des fois, je me dis, travailler, ça fait passer le temps, quoi. On peut pas sortir, on peut pas voir nos amis, on est coincé avec notre famille proche, on peut pas voir nos cousins, nos grands-parents, donc c'est vrai que ça va être long, ça va être monotone.
Pour les plus jeunes, c'est encore plus difficile d'imaginer qu'il s'agit de vraies vacances, comme le raconte Malika. Ses filles, Anna et Lila, sont en CM2 et en 5e.
Elle pensait même qu'elle continuerait à recevoir en fait du travail scolaire et des sollicitations. Elle réalise pas trop, peut-être qu'elles seront contentes à la première vraie grasse matinée.
Il va falloir en effet trouver des astuces pour changer le rythme des journées.
Elles s'occuperont avec des activités autour de la musique et autour du dessin. On fera un peu plus de cuisine, on fera beaucoup plus de jeux de société en famille. À nous aussi, parents, d'être beaucoup plus créatives et imaginatives pour que ce soit un petit peu une surprise.
Malika sera en congé la première semaine, plus de télétravail. Pour les parents aussi, ces vacances seront très spéciales.
Avec des conséquences économiques lourdes, le cabinet ProTourisme chiffre les pertes du secteur à 4 milliards d'euros pour le seul mois d'avril, chiffre que vous révèle France Inter ce matin. En revanche, les ventes de tabac s'envolent, multipliées par 3 voire par 10 dans certaines régions. Selon le président de la Confédération nationale des buralistes, cité ce matin dans le journal Le Parisien, en raison de la fermeture des frontières. Pour vous rendre au bureau bureau de tabac ou ailleurs faire vos courses, plus besoin d'attestation papier. Mmh. À partir de lundi, une attestation numérique sera disponible en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur.
France Inter, il est 7h05. On commence à avoir une idée du nombre de victimes du Covid-19, Jérôme, dans les maisons de retraite.
Alors les chiffres sont encore très partiels, prévient Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, mais le premier bilan national recense 884 morts dans les EHPAD depuis le début de l'épidémie. Derrière ces statistiques, il y a la souffrance des patients. À leur côté, les médecins gériatres sont en première ligne. Depuis des semaines, la mort est leur quotidien, Gaëlle Joly.
À l'hôpital de Mulhouse, il a fallu avoir la peau dure ces dernières semaines pour affronter l'hécatombe, particulièrement en gériatrie, où les personnes âgées ne sont souvent pas capables de supporter la réanimation. Cécile Schnell est gériatre, elle a parfois eu l'impression de devoir compter les morts impuissantes.
En gériatrie, on est habitué à voir la mort, mais là, c'était vraiment de la médecine qu'on n'avait pas l'habitude de faire, avec des gens qui se dégradaient vite. Surtout qu'il faut savoir que les patients qui décédaient d'un état d'insuffisance respiratoire aiguë étaient souvent conscients jusqu'à ce qu'on les sédate. Et donc, parler et prendre en charge un patient qui nous fait part de son angoisse, de son impossibilité à voir ses proches, etc., c'est quand même assez dur.
Un fardeau d'autant plus lourd à porter que les services de gériatrie sont parfois sous-équipés. C'est ce que nous raconte cette aide-soignante d'un grand hôpital du Grand Est sous couvert d'anonymat. Et chaque jour, ce sont des choix terribles qu'il faut faire.
Nous, on n'a pas le matos, quoi. Et là, quand il y en a 11 qui décompensent, qu'est-ce qu'on fait ? Il y en a 6 qu'on peut sédater, et les autres, on les voit mourir, ils s'étouffent, quoi. On les voit mourir comme ça, et à part leur tenir la main, essayer de les rassurer, caresser la tête, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien du tout.
Une souffrance qui devient la nôtre, confie cette aide-soignante, qui doit aussi supporter l'absence de très nombreux collègues, eux aussi frappés par le Covid-19.
Gaëlle Joly avec les médecins gériatres du Grand Est. Le Haut-Rhin, en Alsace, est d'ailleurs l'un des deux départements français les plus éprouvés par l'épidémie. Avec la Seine-Saint-Denis, l'excès de mortalité y est exceptionnel, selon les autorités. Dernier bilan livré hier soir, 4500 morts dans les hôpitaux français et 12 000 guérisons, un chiffre en hausse. Pour limiter la propagation du virus et protéger les soignants, il faut des masques. La France en a commandé 1,5 milliard à la Chine, ce qui ne garantit pas au passage la livraison. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, assure qu'un chargement de masques lui a échappé en Chine car des Américains avaient surenchéri. Pourtant, des masques, la France en a produit et en grand nombre jusqu'en 2018 en Bretagne. Mais cette usine a fermé. Elle était pourtant parfaitement rentable. Révélation de la cellule investigation de Radio France. Benoît Colomba.
L'usine de masques de Plaintel dans les Côtes-d'Armor, à l'origine, c'est une entreprise assez artisanale lancée dans les années 70 par un Français, Louis Giffard. À sa mort, le site passe de main en main, un groupe suédois puis français. L'entreprise se modernise avec des lignes de production automatisées et un laboratoire recherche-développement. En 2005, l'entreprise conclut un accord avec l'État et s'engage à fournir au moins 180 millions de masques FFP2 par an. Pendant la grippe H1N1, l'usine tourne à plein régime. C'est elle qui approvisionne ce qu'on appelle les stocks stratégiques, mais l'État se désengage et en 2010, c'est le groupe américain Honeywell qui rachète l'usine. C'est le début de la fin. Plus d'investissements et une succession de plans de licenciement. En 2018, l'usine ferme ses portes, la plupart des machines sont détruites et la production délocalisée en Tunisie, dans l'indifférence générale. Et pourtant, un rapport d'audit que nous avons pu consulter explique que l'usine de Plaintel était rentable et le licenciement économique infondé. La mort de l'usine était programmée, estime un avocat des salariés, mais tout ça, c'était avant le Covid-19.
Enquête complète de Benoît Colomba à retrouver sur franceinter.fr. Autre front pour lutter contre le Covid-19. La recherche, un nouvel essai clinique va commencer lundi prochain. C'est une information France Inter. Il s'agira de prendre des anticorps de personnes guéries du coronavirus pour les injecter à des malades avec l'espoir de bloquer le virus. Explication dans le journal de 7h30.
Il est 7h09, Jérôme. Dans ce contexte de crise sanitaire et économique, les entreprises doivent-elles verser des dividendes ?
Question éthique, alors que les entreprises bénéficient du chômage partiel pour leurs salariés. Question économique aussi, alors que leurs bénéfices s'effondrent. Alors Airbus et Safran n'en verseront pas, à l'inverse de Total, Publicis ou STMicroelectronics. Quant aux banques, le gendarme du secteur et la Banque Centrale Européenne leur demandent de ne plus en verser pour faire tourner l'économie. Consigne Delphine Simon, diversement suivie.
Il y a celles qui ont les reins assez solides pour se passer de l'aide de l'État. Chez Total, malgré la dégringolade des cours du pétrole, pas de problème, dit-on, pour payer 100% des salaires. Certaines vont diminuer les dividendes de moitié, comme Veolia et Michelin. Même dilemme pour les banques, le Crédit Agricole les gèle jusqu'à l'automne. BNP Paribas va les verser malgré les consignes du régulateur bancaire européen. La pression est forte, explique l'économiste Eric Dor, car les actions plongent en bourse. Moins 50% pour la Société Générale.
Les actionnaires des banques sont encore plus désappointés. Non seulement ils vont perdre une grande partie de la valeur de leurs actions, en plus, ils vont devoir se passer de dividendes. Or, les banques vont continuer à avoir besoin d'investisseurs, donc on peut comprendre que certains dirigeants des banques soient effrayés à l'idée de voir supprimer les dividendes des actionnaires.
Plutôt que de toucher leurs dividendes en espèces, les petits actionnaires seraient prêts à les toucher en actions, explique Colette Neuville à la tête de l'association de défense des petits porteurs.
Ça ne dépense pas de cash, ça aurait l'avantage de renforcer le capital des entreprises.
En attendant, les banques britanniques ont vu leurs actions plonger en bourse après l'annonce du gel des dividendes.
Delphine Simon, Accor lui aussi renonce à distribuer des dividendes. Le groupe va fermer les deux tiers de ses hôtels dans le monde dans les prochaines semaines. Michelin lui va relancer progressivement sa production dans 3 usines en France. À 3 au Puy-en-Velay à Clermont-Ferrand, 200 de ses 9000 salariés sont concernés. C'est incohérent, dénonce la CGT. Le cours du pétrole lui a bondi cette nuit à New York après une série de tweets de Donald Trump qui promet une réduction de la production russe et saoudienne. Les États-Unis, pays le plus touché dans le monde, avec près de 215 000 cas au total, 1 million d'humains sont aujourd'hui touchés par le Covid-19, avec comme première mesure de protection, partout sur la planète, le confinement. Un humain sur deux a pour consigne de rester chez lui, et dans certains pays, les dirigeants n'hésitent pas à employer la manière forte, méthode contestable et contestée, Valérie Creva.
C'était mercredi soir sur la télévision philippine. Le président Rodrigo Duterte prononce une allocution dans laquelle il donne comme consigne aux forces de l'ordre de tuer ceux qui ne respecteraient pas les mesures de confinement.
I will not hesitate. My orders are shoot them dead.
Au Kenya, le président Kenyatta a adressé quant à lui des excuses pour les brutalités commises lors de la mise en œuvre du couvre-feu. Depuis son instauration vendredi dernier, la police a frappé à coups de bâton des dizaines d'habitants à Mombasa ou à Kisumu, ville située dans l'ouest du pays. Au Burkina Faso, on joue aussi l'extrême fermeté. À Ouagadougou, plusieurs centaines de policiers ont été déployés pour faire respecter le couvre-feu de 19h à 5h du matin. Des policiers qui ont la chicotte facile, le fouet local, comme on le voit sur cette vidéo où des hommes sont passés à tabac. À Dakar, au Sénégal, ou à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des témoins ont également filmé des violences similaires sur des vidéos où l'on voit des groupes de policiers matraquer des automobilistes qui ne respectent pas le couvre-feu. Des bavures dénoncées par les associations locales de défense des droits de l'homme.
Valérie Crova.
On termine, Jérôme, avec les festivals annulés les uns après les autres. Ils sont contraints de se réinventer.
C'est le cas de Quai du Polar, prévu à Lyon ce week-end. 100 000 lecteurs chaque année, un public fidèle avec lequel les organisateurs veulent garder le lien. D'où le lancement, Ilana Marioussef, d'un Quai du Polar virtuel.
Ce week-end, la ville de Lyon aurait dû se transformer en capitale du polar. La directrice de Quai du Polar, Hélène Fischbach, n'a pas voulu déclarer forfait.
C'était quand même dommage de rester chacun dans notre coin à se demander comment aurait pu être ce week-end, qui normalement est quand même le week-end pour nous le plus chargé de l'année.
En quelques jours à peine, l'équipe a monté un programme avec les moyens du bord. Ainsi, ce samedi, Franck Tillier, auteur du prémonitoire Pandémia en 2015, conversera avec ses lecteurs via un Facebook Live.
Je m'étais rapproché à l'époque des chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille. J'avais envie d'écrire un roman autour des virus. Dans une réserve naturelle du nord de la France, on découvrait un virus grippal inconnu sur un cygne mort. Et très très rapidement, il y avait un premier cas humain à Paris, puis un deuxième, et puis 10, puis voilà, le virus se propageait dans la population. Il y a vraiment un parallèle assez fort avec ce qu'on vit aujourd'hui.
Il y aura aussi des vidéos envoyées par des auteurs américains, leur éditeur Oliver Gallmeister.
Craig Johnson répond à des questions dans son ranch du Wyoming. Peter Faris présente un livre et un film parmi ses livres et films préférés de chez lui en Géorgie. Et Joe Wilkins de l'Oregon fait une lecture de son dernier dernier livre, Ces montagnes à jamais.
Une façon de dire que Quai du Polar, en vrai, ce n'est que partie remise.
Et pour ceux qui veulent éviter pandémia dans le contexte actuel, le programme complet est sur le site www.quaidupolar.com.
Jérôme Cadet, merci, on vous retrouve à 9h.